je dois résumer en quelques quarts d'heure une histoire qui est une histoire extrêmement longue, même si on apprend que depuis l'existence du judaïsme talmudique, c'est-à-dire après la destruction du deuxième royaume de Juda, qui est pratiquement le moment où les conséquences d'un événement historique auquel je vais me référer assez souvent se font sentir, c'est-à-dire l'arrêt de la prophétie. Alors je rappellerai très brièvement, pour commencer, pour ceux qui ne sont pas encore familiers à ce thème qui me semble extrêmement important, il y a une différence de nature entre cette même tradition que nous appelons judaïsme, mais qui a d'abord été l'hébraïsme au temps des Hébreux, une différence de nature entre cette tradition de la Torah, au temps où il y avait la prophétie et la révélation, et au temps qui commence avec ce que nous appelons le temps talmudique, à partir de la destruction du premier temple, mais surtout à partir de, du temps des Tanaïm, des Amoraïm, et de la suite des grandes autorités traditionnelle à travers 2000 ans. Alors pour récapituler une histoire qui a été aussi dense, et bien voilà, rapidement, parce que sinon... Et vous avez des choses par là. Il y a suffisamment de chaises. Donc, pour récapituler en si peu de temps une histoire qui était aussi dense, je vais vous demander de vous, comment dit-on en français, j'ai oublié, de vous créditer vous-même de tout un ensemble de connaissances historiques que je n'aurai pas, absolument pas le temps de rappeler, sinon par allusion. Mais il y a des historiens dans la salle, en tout cas un que je vois dans mon collimateur, auquel nous ferons appel s'il est nécessaire à travers une de vos réflexions, une de vos questions, de préciser des points d'histoire. Alors je vais supposer, ce qu'il ne faut jamais faire, je vais supposer connu l'histoire de toute une épaisseur, de durée, un temps très long et très dense, qui a été l'histoire du développement de cette tradition que nous appelons le judaïsme. Et sois gentil, tu dis, alors là, on va avoir des problèmes. Et regarde, tu vas dire au secrétariat qu'on a commencé. Puis... Je sais bien que nous sommes un peuple messianique, c'est-à-dire comme le Messie, on arrive toujours en retard, mais après, quand même, on ne perdait pas de temps. Je suis vraiment désolé, d'habitude, je prends le temps de recommencer l'introduction autant de fois qu'il est nécessaire, mais ce soir j'ai une autre chose à faire après, je ne voulais pas faire tarder les autres. Alors je reprends vraiment très brièvement et pour la dernière fois. C'est-à-dire, j'annonçais déjà, un peu sous forme négative, que le sujet n'est pas la marloquette. La marloquette, en français, il faudrait dire les divergences d'opinion à l'intérieur d'une tradition qui est la nôtre. Ceci, comme nous allons le voir assez rapidement par allusion, le fait qu'il y ait des divergences d'opinion est considéré comme légitime, mais notre véritable problème, c'est à quelles conditions. Je crois que c'est là qu'est vraiment le problème le plus important. Et je disais que je suis obligé de faire allusion à une épaisseur de durée, de temps, de au moins 2000 ans, mais qui a elle-même, je ne dirais pas une préhistoire, mais une histoire préalable, qui est l'histoire du temps hébraïque, où il y avait la prophétie et où il y avait la révélation. Je veux dire, c'est le monde où s'élabore cette tradition hébraïque, jusqu'à la destruction du premier royaume de Juda, jusqu'à la fin du temps de la prophétie, et le monde qui commence après la destruction du premier royaume de Juda, il y a 2600 ans, Et l'arrêt de la prophétie, ce ne sont pas des événements d'arrêt brusque, mais c'est un arrêt, et l'arrêt est irréversible, même s'il y a la promesse que la prophétie reviendra un jour, sont deux mondes traditionnels radicalement différents. Nous, nous sommes les Juifs, héritiers des Hébreux. Mais nous parlons de la tradition des Hébreux telle que les Juifs l'ont recueillie et ont traversé, avec ce précieux héritage, ont traversé le temps de plusieurs civilisations jusqu'à nous. Donc, je disais que c'est évidemment un temps historique énorme et nous pourrions passer des heures à raccorder notre vocabulaire ou notre érudition, notre connaissance sur des points de détail, même sur de grands problèmes. Donc, ça ne sera pas une soirée d'érudition, et pourtant nous allons étudier sur le texte. Ce sera une soirée de réflexion. Je répète donc l'essentiel du sujet. Et pour m'en comprendre, asseyez-vous. Comment comprendre qu'il y ait une tradition, une unité de doctrine, le judaïsme, et de quoi s'agit-il pour notre sujet, mais que d'autre part, il y ait des divergences et des tendances différentes, mais surtout, à quelles conditions? Eh bien, lorsque Alain Michel a projeté cette série d'études qui se passera cette année sous sa direction, et ceux qui ont reçu le programme, vous avez l'argument des différents sujets, il nous avait proposé comme titre général le judaïsme en conflit. Et je lui ai demandé de modifier un peu ce qu'il a accepté et de donner comme titre le judaïsme et ses conflits. Il y a, je crois, une philosophie différente derrière ces deux titres. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour l'exposer de mon point de vue. Je voudrais quand même laisser le plus de temps pour vous donner la parole tout à l'heure. Je crois que dire le judaïsme en conflit, ça risque de signifier que c'est dans la nature du judaïsme d'être en conflit, ce que, a posteriori, l'histoire semblerait confirmer, puisque nous avons passé notre temps à des schismes perpétuels, nous, c'est-à-dire Israël. Comme vous le savez, ça déborde un peu le cadre de mon sujet, non seulement les différents schismes qui ont fait que parfois des pans importants de notre peuple ont quitté l'identité juive et soit ont disparu, soit sont devenus autres. Je pense par exemple à la chrétienté d'une certaine manière, d'une manière moins évidente mais tout aussi réelle, l'islam. Mais nous avons été à l'origine de toutes les hérésies possibles et imaginables. Et il faut craindre que de notre temps, certains, c'est une blague mais pas tellement, aient l'idée de nous inventer une hérésie qui serait encore beaucoup plus grave et qui s'appellerait judaïsme, avec un adjectif. Et pour revenir au sujet, cela tient certainement, pas complètement mais en grande partie, à un événement historique que j'essaye de désigner, je désignerai une deuxième fois, et je me sens vraiment incapable en si peu de temps de trouver les mots qu'il faudrait pour vous suggérer de quoi il s'agit réellement, identifier de quoi il s'agit. On a oublié que la prophétie a eu lieu parce qu'on a oublié qu'elle a cessé à un certain moment de l'histoire. Le choc de l'arrêt de la prophétie, finalement, a fait tabou, il y a un refoulé à ce sujet. On n'arrive pas à réaliser que la prophétie a cessé et donc on ne sait plus réaliser que la prophétie a existé. Pourquoi je dis cela de manière aussi catégorique? Mais parce que, en tout cas, la forme même du texte biblique sur lequel la tradition juive, c'est elle qui nous concerne ce soir, je ne parle pas des autres traditions qui se réfèrent à la Bible, par exemple les différentes traditions chrétiennes, mais le texte biblique sur lequel la tradition juive tient son fondement dans la forme même, se base sur l'évidence qu'il y a eu prophétie. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse d'expérience pédagogique pour essayer de suggérer l'importance du problème. Je sais que ces mots que je viens de prononcer ne suffiront pas à dire ce qu'il faudrait dire. Et on va continuer à réfléchir à ce sujet, je le crains, comme s'il est évident entre nous que parler de la prophétie, c'est une façon de parler. Et qu'en réalité, il s'agirait d'une philosophie de philosophes pieux, d'une philosophie de penseurs religieux qu'on appellerait les prophètes, alors que dans le sens biblique du terme, il s'agit d'une révélation du créateur du monde à sa créature, ce qui sont des catégories radicalement différentes. Mais il y a eu tellement de temps de passé par rapport à l'événement historique que j'appellerais la fermeture du canon biblique, 2000 ans, 2600 ans, c'est incroyablement long, il y a eu tellement de temps culturel et spirituel de passé, qu'ils n'ont plus les moyens d'imaginer de quoi il peut s'agir. Et d'une façon générale, notre expérience pédagogique nous montre que l'esprit contemporain, et ça fait longtemps que cette contemporanéité dure, pense à une inspiration un peu différente, mais du type de l'inspiration intellectuelle ou poétique, ou les deux à la fois. En réalité, de la manière dont la Bible parle, nous renvoie à des catégories de nature radicalement différentes, mais nous n'avons plus le moyen de le diagnostiquer. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Alors, il me semble que précisément le fait qu'il y ait une telle problématique de conflit à l'intérieur de cette tradition qui est la nôtre, et encore une fois, je ne parle pas des schismes, vient de ce que le judaïsme comme tradition est une fidélité par la connaissance à ce qu'a été une révélation au temps des Hébreux. Lorsque donc je vous dirai un petit peu cette expérience pédagogique, j'étais moi-même lycéen. Lorsque je me suis rendu compte de cela, je lisais un très beau poème d'Alfred de Musset, je ne me rappelle plus quelle nuit, de décembre, de novembre, ou de je ne sais plus. Et puis il y avait un vers qui m'a beaucoup frappé. Ah non, c'était les stances à la Malibran. Vous savez, ma culture française est un peu ancienne. Alors Musset disait, et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas s'il y a des littéraires parmi vous, si c'est bien ce poème-là ou un autre. En tout cas, ce que je peux le garantir, c'était Alfred de Musset. Mais tout le monde sait que Dieu n'a rien dit, n'a jamais rien dit à Alfred de Musset. Alors, là, et pourtant, c'est un très beau vers. Et non seulement émouvant, c'est la vraie poésie. Eh bien, lorsque Moïse, Jérémie, Ézéchiel, ces hommes qui ont fait que la civilisation humaine est ce qu'elle est, à travers qui la civilisation humaine est devenue ce qu'elle est, il y a eu d'autres, mais en tout cas eux, lorsqu'ils disent, et la parole de Dieu me fut adressée en ces termes, et de quel Dieu s'agit-il? De Elokea Evrim, du Dieu des Hébreux, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et après tant de temps, il y a un consensus universel que si, c'est moi qui dis si, entre guillemets, que si Dieu a parlé, il a parlé hébreu, il y a un consensus tel, d'une telle massivité dans la culture humaine, telle qu'elle est purement et simplement la culture universelle, que ça ne fait pas le poids de parler de ce même verset chez Moïse, chez Ézéchiel ou chez Jérémie, ou de parler de l'inspiration divine chez Musset. Et encore une fois, j'aime beaucoup ce poète. Et il ne s'agit pas de ça. Ce que je voudrais mettre un peu en mémoire. Nous n'avons plus de référence d'unanimité comme c'était le cas au temps des Hébreux. Et pourtant, au temps des Hébreux, il y a eu des schismes. Je vous donnerai un petit exemple rapidement pour montrer bien en contraste de quoi il peut s'agir. Il y a eu un schisme très grave et nous sommes encore dans le temps des conséquences de ce schisme. Le schisme qui a séparé le royaume du Nord, qui s'est nommé Israël, après le temps du roi Salomon, c'est très ancien, et le royaume du Sud, qui s'est nommé Juda. Comme vous le savez, à travers beaucoup de temps, les tribus, les 9 tribus et demie du royaume du Nord, on a l'habitude de dire, en schématisant les 10 tribus, se sont perdues, pour être un peu plus complet, depuis quelque temps, en centaines d'années, c'est très peu, mais depuis quelque temps, on est à peu près sûr, scientifiquement, d'en retrouver les traces, et leurs descendants se trouvent dans toute la région qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Mashrek, c'est-à-dire la région de l'Iran et l'Irak, enfin Babel de l'Antiquité, l'Iran, l'Irak, jusqu'aux confins de la Chine d'ailleurs, et le sud de la Russie, et en particulier l'Afghanistan, qui est le centre même des régions où les descendants de ces tribus se trouvent aujourd'hui. Ce sont des musulmans, ils ont été convertis assez rapidement à l'islam, et ils ont encore des habitudes sémites, mais hébraïques et pas arabes. Il y a des missions scientifiques israéliennes qui s'occupent de les retrouver. Et on en retrouve jusqu'au nord de l'Inde. Les estimations que je connais c'est une trentaine de millions. Et ils se définissent comme descendants de ces 10 tribus perdues. Ils s'appellent les fils de Joseph. Pour l'anecdote, si vous voulez, le fait que l'Empire soviétique ait commencé à s'effondrer à travers les événements d'Afghanistan, c'est peut-être relié à une perspective, disons, entre guillemets, messianique du déroulement de cette histoire. Je referme la parenthèse, c'est un autre sujet. Si ça vous intéresse, on vous fera venir un jour un spécialiste de ces questions-là, avec, diapositive à l'appui. Eh bien, et ça a été un schisme énorme, et c'était pourtant le temps de la prophétie. Ce schisme est évidemment un schisme politique. Et nous connaissons les raisons qui ont poussé les dirigeants du royaume du Nord à se séparer du royaume du Sud, et très rapidement, ça s'est doublé d'un schisme théologique. Et les tribus du Nord sont devenues fidèles à une nouvelle religion, une nouvelle ancienne religion, la religion du Vaudor d'ailleurs, et alors que les tribus du Sud sont restées fidèles à la loi de Moïse. Mais ce schisme théologique a été second par rapport au schisme politique. Et peut-être que de notre temps, la société juive contemporaine israélienne y comprise, est travaillée par des problèmes analogues de schisme, qui commencent d'abord par des motivations politiques, mais qui impliquent des différences profondes, idéologiques, métaphysiques, théologiques, même lorsqu'il s'agit de chilonim, même lorsqu'il s'agit d'hommes juifs qui ne se réclament pas de la tradition religieuse. Alors, voilà, la première idée forte, je crois, de cette analyse, c'est de se souvenir que une des causes profondes de cet état de fait que, pratiquement perpétuellement, la tradition juive se scinde à l'intérieur d'elle-même en conflit, vient du fait que nous sommes les héritiers d'un événement en creux, d'un événement négatif, la fin de la prophétie hébraïque. Pour cela, il faut se rappeler qu'il y a une différence de nature entre l'identité juive et l'identité hébraïque. Ce n'est pas le même monde. Le monde des Hébreux était un monde où la révélation était une donnée expérimentale quotidienne, alors que le monde des Juifs, c'est la fidélité à l'hébraïsme, mais en un temps où la révélation a cessé. Et où il n'y a pas, sinon pas façon de parler, référence à la parole prophétique. Et je voudrais vous lire, et nous allons lire sur texte, deux références du Talmud pour commencer. La première, qui parle de manière extrêmement négative, ce texte-là, vous ne l'avez pas parce que c'est trois lignes, je le lirai sur le livre, de ces divergences de formulation de la vérité. La deuxième, qui en parle, là, ça nous l'étudiera un peu plus en détail, de façon extrêmement positive. Et à travers cette étude de texte, j'essaierai de commencer à dégager à quelles conditions, selon l'enseignement du Talmud, des divergences d'opinion à l'intérieur d'une même doctrine sont légitimes. Et j'espère que nous arriverons à formuler deux ou trois critères suffisamment clairs pour que ça nous éclaire sur l'état contemporain du problème. Avec peut-être une première remarque que je risque d'oublier par la suite, c'est que la tradition juive dans laquelle j'ai été élevé a été la tradition sfarade. Et or, aujourd'hui, la science du judaïsme, peut-être le mot n'est pas celui que j'aurais dû employer, la connaissance du judaïsme est beaucoup plus imprégnée des méthodes de la tradition ashkénaze. Je pense que c'est un fait de réalité, il n'y a pas à se cacher à le dire. Je vous donne par exemple l'exemple de la France, où depuis l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, il y a énormément d'écoles juives, un nombre d'écoles juives qui n'existaient pas avant la guerre. La guerre, c'est la guerre mondiale pour la France, bien sûr. Ici, on ne sait pas laquelle. Et alors, vous avez énormément d'établissements scolaires juifs, que ce soit des écoles, des lycées ou des yeshivot. Et l'immense majorité des élèves, parfois, et des professeurs, et le directeur sont sfarades, et pourtant le rite est ashkénaze. C'est un sujet en soi, c'est un sujet de sociologie juive contemporaine qui mériterait d'être étudié. Et je pense qu'il y a là quelque chose de, qu'elle m'a employé, naturel, normal. Les juifs sfaradim d'Afrique du Nord ont rejoint un pays ashkénaz et ils sont en train de devenir ashkénaz à leur manière. C'est-à-dire ashkénaz couscous, mais ashkénaz quand même. Pour revenir d'ailleurs, petite parenthèse un peu de l'actualité israélienne, un mouvement comme le mouvement Chasse, qui se réclame de l'identité sfarade, est en réalité très ashkénaz. C'est une sorte de fils adoptif plus ou moins ingrat de la Goudat d'Israël. En tout cas, je cite cela en passant pour vous dire ceci. Dans la tradition sfarade, nous étions habitués aux différences d'ordre, et ce que je veux dire n'est pas du tout négatif, d'ordre tribal, pas du tout aux différences d'ordre idéologique. Il n'y avait pas de phénomène de secte, il y avait des phénomènes de communauté de nature folklorique différente. Par exemple, pour l'Afrique du Nord où je suis né, vous aviez, et d'ailleurs ça a été vrai aussi pendant très longtemps pour le monde ashkénaz, ce n'est que récemment, d'ailleurs, Alain Michel retrouvera ces sujets dans sa liste de sujets. Ce n'est récemment que ce clivage des différences des juifs différents est devenu idéologique. Donc, l'Afrique du Nord où je suis né, il y avait les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Tripolitains, les Égyptiens. C'était des manières d'être juifs différents suivant le paysage du pays. C'est-à-dire, je dirais folklorique, si ce mot n'avait pas pris une signification dévitalisée et négative. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit, dans le sens noble de la manière d'être d'un peuple en tant que peuple. C'était le même judaïsme, mais la mélodie de ce judaïsme, à tous les niveaux, était différente, et la différence venait, et ça c'est une donnée de l'universel juif, venait de l'universel humain. La différence des juifs entre eux venait des goïms chez lesquels ils vivaient. La différence entre un juif algérien et un juif marocain, c'était que l'un vivait en Algérie, l'autre vivait au Maroc. Et sa différence, elle était celle du pays dans lequel il vivait. À la juive, cachérisée, mais ça venait des goïms. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Ça c'était la différence dans la tradition sfarade. Dans la modernité du monde ashkénaz, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de nature différente. Il s'agit vraiment d'idéologies différentes, de sectes. Et ne donnez pas forcément à ce mot un caractère négatif, mais c'est de ça qu'il s'agit. On forme officiellement communauté, mais en réalité, on forme école dans le sens d'une secte. J'espère avoir été suffisamment clair. Je voulais une petite parenthèse un peu pour détendre ce sujet. Or, c'est le style ashkénaz qui a prédominé dans notre temps. Le style sfarade est en train de se perdre. En Israël, on ne sait pas du tout ce qu'il arrivera. Parce qu'Israël, vous savez, Israël, c'est spécial. Mais en tout cas, je vois ce qui se passe dans les pays de l'exil. Je vous donne un exemple. Il y a une communauté sfarade qui s'est constituée, la dernière à se constituer en Amérique du Nord, c'est celle du Canada, de Montréal. Et j'ai un peu suivi son apparition à l'existence et son développement. Sa ashkénazisme a une vitesse extraordinaire dans une crispation de folklore sfarade qu'on essaye de garder à tout prix. Mais le Canada, c'est un pays ashkénaz. C'est un pays nordique et américain en plus. Vous voyez à peu près comment ça marche. Or, il n'y a pas de doute qu'il y a une imprégnation de la méthode ashkénaz des différences qui deviennent beaucoup plus idéologiques que, j'ai dit folklorique, il y a peut-être un autre mot, je ne vais pas dire tribal. Je donne un exemple en France. Eh bien, en France, il y a actuellement une catégorisation des communautés juives en orthodoxe, c'est l'immense majorité du pouvoir religieux, en tout cas en France. Le consistoire est devenu orthodoxe, comme vous le savez, il a disparu comme tel. Il y a une résistance à l'intérieur des communautés consistoriales. Mais enfin, officiellement, les choses étant ce qu'elles sont, dans le rabbinat français actuel, dans la structure du rabbinat français actuel, c'est devenu une communauté d'obédience orthodoxe. Et puis il y a les conservateurs d'une petite communauté qui est en train de s'installer en France. On lui souhaite d'ailleurs de réussir. Et puis il y a les libéraux qui sont eux-mêmes séparés en différentes tendances. Ce sont des différences idéologiques. Mais il y a eu un temps où en France, les juifs se différenciaient en juifs de Bordeaux, du comtat vénitien, des juifs du pape, c'est Avignon, Ken, et puis les Lorrains, et puis les Alsaciens. Et c'était pas du tout des différences de type orthodoxe, catholique, protestant chez les catholiques. C'était des différences vraiment de manière d'être homme à l'intérieur de la même, du même judaïsme. Je tenais à signaler ça pour vous donner une première analyse un peu midrashique, un petit peu, c'est pas une blague, mais presque. C'est un enseignement que j'ai reçu du Rav Levi Nachmani. Il y a un verset qui indique à la fin des temps, un terme qui reviendra dans nos études tout à l'heure, Dieu nous rassemblera. Effectivement, il y a eu la dispersion des exilés et il y aura le rassemblement des exilés. Alors le verset dit Asof Asifem Neum Hashem. Rassemblés, je les rassemblerai. Parole de Dieu. Le Rav Levi Nachmani, un peu sous le ton d'humour, elle disait ça indique que les Ashkenazim et les Sfaradim feront la même communauté. Parce que Asof, c'est Aleph pour les Ashkenazim et Samerpé pour les Sfaradim. Et alors, on a vécu effectivement cette mixité des deux grands ensembles folkloriques, disons juifs, jusqu'au schisme entre l'Agudat Israël, non, c'est Yadut HaTorah, et Ch'as, où les Sfaradim se sont séparés des Ashkenazim et ont cassé le Asof Asifem messianique. Je voulais vous le signaler en passant parce que tout cela nous le vivons. C'est pas simplement des analyses sociologiques, c'est en plein le sujet avec tout ce qu'il a de tragique. Qu'y a-t-il dans cette tradition qui fait qu'on se sépare alors que c'est une tradition de l'unité? J'ai l'habitude de dire que, d'après l'enseignement de nos maîtres, l'homme a l'habitude de choisir pour idéal la vertu qui lui manque. C'est un peu différent de ce que l'on dirait en atmosphère de culture occidentale. En atmosphère de culture occidentale, on dirait à peu près ceci, dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es. Mais pour le Talmud, et surtout pour la Kabbalah, c'est différent. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai ce que tu n'es pas encore. C'est pour ça que tu y crois. Si tu l'étais, tu n'aurais pas à y croire, tu le serais. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Mais avec une grande consolation, puisque tu y crois, c'est que tu es sensible, et puis si Dieu veut, tu y arriveras un jour. Et, or, je pourrais vous donner des exemples dans différentes traditions, mais je voulais parler du judaïsme. Il est évident que l'idéal du judaïsme, c'est l'unité. Or, c'est ce qui nous manque le plus. Je crois qu'il y a là une cohérence qu'il faut mettre en évidence. Tout se passe comme si Dieu a confié cet idéal à réaliser à la société pour qui c'est important de le réaliser, et si elle le réalise, elle le réalise à l'échelle de l'universel humain, de la même manière que pour toute autre société, la vertu fondamentale qui la caractérise est réalisée à l'échelle de l'universel humain. Je pense à Rome, je pense à la Grèce, je pense aux grandes civilisations du monde, la vertu dominante, c'était eux et eux seuls qui l'ont réalisé, et l'ont réalisé à l'échelle de l'universel humain. On peut entrer dans le détail, je pense que les choses sont claires. Or, il n'y a pas de doute que, d'un point de vue sociologique, les Juifs sont capables de donner l'exemple de l'unité. Mais, d'un point de vue idéologique, ils donnent l'exemple du contraire. C'est notre problème. Alors, c'est pourquoi je voulais surtout mettre en évidence dans nos études, la formule que j'ai proposée à Alain, le judaïsme et ses conflits, plutôt que le judaïsme en conflit, mettre en évidence la cause profonde. C'est que la, il y a un tabou, il y a une nébuleuse, enfin c'est devenu nébuleux sur la source de cette tradition. La source de cette tradition est censée être une révélation. Mais le temps a tellement passé depuis que le dernier des prophètes s'est tu, que c'est au fond cela qui est en question. Mais on est renvoyé à une problématique purement intellectuelle au sujet de ce qui est censé être une révélation. Je crois que ça sera un peu le fil conducteur de mes analyses. Alors voici le premier texte, dans la Gemara de Sanhedrin. Je vous dirai quelle est la page, si vous voulez noter la référence. C'est la page 97A. Voilà, c'est une soulia, c'est un sujet où les talmudistes essayent de formuler des signes auxquels on peut reconnaître la fin des temps de l'exil. Des signes auxquels on peut reconnaître le commencement des temps messianiques. Je vous dis des formules d'approximation. Et en général, ces signes sont formulés de manière hermétique. Mais je vous donnerai un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, et ensuite on va étudier un autre. C'est que il y aura une incertitude quant au taux de la monnaie. Je crois que nous y sommes. Okay. Inflation, dévaluation, serpent de... Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Le serpent de l'inflation. Bon. Alors, des quantités de signes de ce genre que les maîtres du Talmud nous ont laissés dans ce fameux chapitre 11 de la Gemara de Sanhedrin. Je vous lis un de ces signes. Vechokhmat ha-sofrim tisarach. Et la sagesse des scribes mourira. La sagesse des scribes sentira mauvais comme quelque chose qui pourrit. Le Rav Kook a expliqué cela de la manière suivante. En disant, on s'occupera plus des détails que de l'essentiel. C'est un vocabulaire à moi, mais c'est ce qu'il voulait dire. On s'occupera tellement de détails que ça sera comme quelque chose qui pourrit et un ensemble qui se défait dans des détails, alors ça sent mauvais. Mais la formule du Talmud est violente. Chochmat ha-sofrim tisarach. Et vraiment, la sirha en hébreu, l'hébreu araméen, ça sent mauvais. Ve'irehet im asu. Ceux qui ont le scrupule de craindre de faire une faute, irehet, ceux qui ont la peur de la faute, ça veut dire le scrupule qui mène à. Qui vient de ce qu'on a peur de faire une faute, dégoûteront leurs contemporains. C'est violent comme indication. Mais il semble bien que ça se réfère à chaque époque où il y a eu les schismes, à une fin de cycle. Et je pense que nous sommes à une époque de ce genre. Il suffit de savoir de ce qui se passe dans le monde, de ceux qui sont censés être les autorités de parler au nom de la Torah. Il y a un état de dispersion des options dont on ne perçoit pas du tout le critère de différence à un niveau suffisamment noble pour pouvoir le respecter. C'est un peu ça de ça que parle le sujet. Je continue. Ou pnei ador ki pnei kelev. Les faces des gens de la génération finiront par ressembler à des faces de chiens. Bulldog. Je voudrais pas vous citer des noms de la Knesset, mais un certain nombre de types. Altirouli, j'ai un nichard. Et voilà où je suis arrivé. Vea emet neaderet. Et la vérité disparaîtra. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, Vateia emet neaderet, ça se trouve dans un verset d'Isaïe dont je vais vous donner la référence. Voilà, c'est le chapitre 59, verset 15 d'Isaïe. Vateia emet neaderet, et la vérité disparaîtra. Bessar Merar Mishtolel. Et celui qui s'écarte du mal apparaîtra comme un fou. Miche Mishtolel. Comment on peut dire ça en français? Un fol. Dans le français du Moyen-Âge, on disait un fol. Quelqu'un d'extravagant. Vayar Hachem, et Dieu a vu, Vayedar Be'enav, et il s'est rendu compte qu'il y a une mishpat, qu'il n'y a pas de véritable justice. Et donc c'est un verset terrible que c'est ici la Gemara, que la vérité disparaîtra. Et alors voilà où je voulais en arriver. Maï vatehi haemet nerderet. La Gemara dit, et qu'est-ce que ça veut dire ce verset, que la vérité va disparaître? Alors là, vous allez faire un effort de sémantique hébraïque, nerderet. Et Ader, c'est ce qui manque, ce qui est tellement caché que ça manque. Le néant, se dit, le Ader. Mais la Gemara va interpréter avec un mot voisin, et nous sommes en plein dans notre sujet, Amré de Berav, à l'école de Rav, on a enseigné, Melamed, ça nous apprend, Shena Asit Adarim Adarim. Ader, c'est un troupeau. Ader, c'est le manque. Aider un troupeau. Vous voulez que j'écrive ou c'est pas la peine? Hé, Aïn, Dalet, Resh. Vous ne comprenez pas avec Deraï, c'est tout à fait. Et alors, ça veut dire que voilà comment la Gemara explique. Qu'est-ce que ça veut dire que la vérité disparaîtra? Ça veut dire qu'elle se transformera en différents troupeaux, chacun avec un berger différent. Jusque-là, ça pourrait être au contraire, ça peut être justement une lecture positive. C'est-à-dire, là, on croit que la vérité une a disparu, il y a un enrichissement des tendances, chaque troupeau ayant son berger. Mais le Talmud nous empêche de lire ainsi. Est-ce que l'exégèse est suffisamment claire? Le Talmud nous empêche de lire ainsi. Veolechetla. La vérité se divise en différentes tendances et disparaît. Bon, je vous renvoie d'ailleurs à cette souvia. J'ai entendu moi-même des Talmidei Chachamim s'arrêter avant et prendre en bonne part le fait qu'il n'y a pas une vérité une, ce serait du totalitarisme intellectuel ou idéologique, mais qu'il y a des troupeaux différents, à chacun avec son berger. Mais c'est pas la Gemara. La Gemara dit, et à travers cela, elle disparaît. Alors, nous devons nous poser la question, à quelles conditions ces troupeaux sont légitimes? Parce qu'ils sont dangereux, puisqu'ils feront qu'en fin de compte, la divergence va s'ouvrir et que la vérité va disparaître. Je crois, si on fait l'expérience, si on réfléchit à cette situation, quand il y a deux hommes de bonne foi, en opposition, qui sont vraiment de bonne foi, alors il est évident qu'il ne suffit pas de dire que ce serait lénifiant, les deux en raison. Ça choque le bon sens élémentaire d'une bonne santé mentale et morale humaine. On ne peut pas avoir raison alors qu'on dit des choses contradictoires. On ne peut pas les deux avoir raison si on dit des choses tellement différentes qu'elles deviennent contradictoires. En réalité, ça veut dire que les deux ont tort. Dans quel sens? Alors, dans quel sens ils auraient raison? Les deux n'ont qu'une partie de la vérité. Une, ça s'est divisé en deux. Prendre parti, ça se dit en hébreu, avec le même mot qui veut dire en araméen, éclater en partie. Plaga. Okay. D'ailleurs, c'est le même mot qui est miflaga. Okay. Mais vous devez vous rappeler que c'est ce que les commentaires disent de Korah. Quelle a été la faute de Corée en français, c'est Korach en hébreu, Vaïkar Korach. Il a pris parti. Et Itpalig traduit l'araméen sur ce verset. Il a pris parti. Prendre parti, c'est prendre une partie de la vérité. C'est pas un jeu de mots, hein. C'est l'étymologie même en hébreu. Et l'histoire montre qu'effectivement, la réconciliation n'est possible que s'il y a aveu, que tout ce qui est exagéré est suspect, et que lorsque on s'est séparé, et bien des deux côtés il y a un manque. C'est pas du tout une façon de parler humaniste. pour faire bien dans le discours. C'est exactement ce qu'il faut comprendre de cette première référence. Tant nous n'arrivons pas à un niveau de compréhension qu'il s'agit bien d'une doctrine une et que cependant il y a des divergences légitimes, on n'arrivera pas à comprendre de quoi il s'agit. Tant qu'on fait comme si des différences par oui et par non sont toutes les deux légitimes, alors on tourne la logique en dérision. Et si on tourne la logique en dérision, on tourne la morale de la logique en dérision. Il y a là un laxisme intellectuel qui ne fait pas du tout partie de ce dont la Gemara veut dire. C'est la première référence. J'ai peut-être pris trop de temps pour cette première référence et l'introduction qu'il introduisait, mais je voudrais quand même la résumer très, très brièvement. Nous avons là un texte où le Talmud indique comme une catastrophe le fait que un troupeau se divise en différents troupeaux. J'en vois maintenant un deuxième texte, mais qui semble dire complètement l'opposé. Alors ça nous oblige à nous poser la question, à quelles conditions les divergences sont légitimes? J'ai répété plusieurs fois cette formule, parce que je sens bien qu'il faut que nous arrivions à dire les mêmes choses en employant les mêmes mots. Je vous demanderai d'ailleurs si vous voulez bien étendre le nom, de garder vos réponses pour la fin, parce qu'il est possible que des questions se résolvent au fur et à mesure de l'analyse et n'ont pas assez de temps pour faire trop de parenthèses. Voilà, je schématise cette première partie. C'est-à-dire, il s'agit là d'une référence où, de manière évidente, la Gemara désigne comme une catastrophe l'éclipse de la vérité, le fait que la vérité se divise. Et pourtant, comme nous allons le voir, le texte le plus important est un deuxième texte qui, au contraire, va légitimiser les divergences contradictoires. Alors, vous prenez cette fois le texte de la Gemara de Chagiga. Celui-là, là vous avez Chagiga. Okay. Voilà. Je vais laisser provisoirement, avant qu'on ait le temps, ça m'étonnerait. La première partie, simplement en disant qu'elle en est le sujet général, pourquoi je l'avais prévu. La première partie, on va quand même lire une dracha. Vous allez prendre là Rabbi Tanhum. Alors, je vous compte avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à la 9e ligne par en haut du texte de Chagiga. Alors, c'est un drache de Rabbi Tanhum sur un verset de la Genèse qui fait partie de l'histoire de Joseph lorsque les frères de Joseph l'ont jeté dans la fosse. Et le verset dit « Vabor rek en bomayim ». Vous y êtes sur le verset? Le verset dit « Et la fosse était vide, il n'y avait pas d'eau ». Alors, le marin va poser la question. Je continue. « Mimash mar shenema vabor rek ». Mais est-ce que, du fait que j'ai lu que la fosse était vide, « En yodéar shen bomayim », est-ce que je ne sais pas par là qu'il n'y avait pas d'eau? Que signifie cette répétition apparente? Et là, Maïm en Bo. Mais c'est pour nous dire d'où il n'y avait pas Abal Nechashim Vahaklavim Yeshbo. Mais il y avait des serpents et des scorpions. Or, dans tout ce contexte, le chidouche de la Torah, ça veut dire le renouvellement de sens de l'enseignement de la Torah, est mis en évidence à travers la comparaison entre la Torah et l'eau. La Torah en tant que sagesse révélée, mais en tant que sagesse, n'est authentique que si elle est si elle est comme l'eau qui, le mot me manque, vous allez m'aider, qui bouillonne, enfin l'eau qui jaillit. Si c'est une eau stagnante, alors finalement ça devient des scorpions et des serpents. Et il faut que ce soit une eau jaillissante. Ça, c'est un chidouche. Ça veut dire le renouvellement de sens de la tradition que nos pères, les prophètes, nous ont transmise. Là, une petite parenthèse linguistique. Il y a deux termes en hébreu pour dire la chose nouvelle. L'un est très positif, c'est le chidouche. C'est le fait de devenir nouveau tout en restant soi-même. Après, je vous donnerai des repères linguistiques. Le deuxième terme, c'est le chinoui, le changement. C'est de devenir autre en changeant. Je prends d'abord le mot de chinoui. Il joue dans la règle. Chinoui, assour, redouche, non seulement moutard, mais Jéhovah. Ça veut dire, il y a deux écueils à une tradition, refuser le chidouche ou tomber dans le piège du chinoui. Je répète pour tout le monde écoute, refuser le chidouche, la tradition se fossilise, ou changer le chinoui, elle disparaît, elle devient autre. Prenons le terme de chinoui, on va faire un peu de grammaire jusqu'à ce que je sens que, vous ai, que c'est clair en français. Le mot chinoui, c'est la racine échanot, changer comme le deuxième est par rapport au premier. Vous retrouvez le mot de chéni. Le deuxième est autre par rapport au premier. Mais en français, ça va nous aider. Il y a deuxième et second. Bien. Je vais me baser sur un terme français en partant du latin. Autre en latin, ça se dit alter. Et il y a deux substantifs français qui sont dérivés. Altérité, être autre et altération. Alors dans cette catégorie, c'est être autre en devenant autre complètement. Ça c'est le chinoui. Alors la règle traditionnelle, c'est que le chinoui est interdit. Ça assassine une tradition, elle devient autre. Et oui, le premier des conflits que nous...